propose de faire une lecture ensemble dans l'épître de Paul aux Galates, simplement un verset dans cette épître de Paul aux Galates. Je propose de lire au chapitre 2, le verset 20. Épître de Paul aux Galates, chapitre 2, à partir du verset, le verset 20. Épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20, Paul écrivait ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce que Paul écrit. Alors ce verset, il est tiré d'une épître, c'est-à-dire une lettre que Paul, c'était un apôtre du Christ, avait envoyé à une église, l'église des Galates, voilà. Et ces chrétiens étaient des chrétiens qui avaient connu l'Évangile, qui avaient connu la grâce de Dieu, grâce au travail missionnaire de l'apôtre Paul au milieu d'eux. Or, ces chrétiens galates, après avoir pris un bon départ dans la foi, après avoir reçu de multiples bénédictions de la part de Dieu, eh bien, on s'aperçoit quand on lit cet écrit du Nouveau Testament que ils étaient menacés par un danger. Le danger des Galates, c'était de mettre leur confiance en eux-mêmes, hein, en leur propre capacité, leur propre mérite, de revenir à la pratique d'une religion stérile, alors que l'Évangile ne nous conduit pas du tout dans ce chemin-là, et finalement de se laisser gagner par l'orgueil. Et Paul va leur écrire cette épître aux Galates, précisément pour leur épargner ce danger. Et ici, notamment, Paul va utiliser son propre exemple. Il donnera lui aussi son témoignage pour instruire les Galates et les préserver de tomber dans ce danger que nous avons nommé. Paul avait un témoignage remarquable. Il avait un témoignage remarquable puisque il avait été un juif intégriste, pourrait-on dire. C'était un homme qui persécutait les chrétiens. C'était un juif qui refusait absolument de reconnaître dans le Christ le Messie promis à Israël et au monde entier. Et il pénétrait même chez les chrétiens, les frappait, les jetait en prison, jusqu'au jour où, précisément parce qu'il portait des lettres là qui lui donnaient le mandat de jeter les chrétiens en prison, il était en route vers cette ville de Damas, et l'Écriture nous rapporte de quelle manière le Seigneur lui est apparu, Jésus-Christ est apparu à cet homme, connu encore sous le nom de Saul de Tarse, et là, confronté à la gloire du Christ, Saul de Tarse a cru dans la réalité de la personne du Christ, a reconnu en Jésus-Christ le Messie promis, le Fils de Dieu. D'ailleurs, ça a donné lieu à l'expression que vous connaissez sans doute, le chemin de Damas. Vous voyez, c'est lorsque un homme qui se confie dans ses capacités, dans ses qualités, dans ses richesses, vous voyez, passe par une épreuve dans la vie qui l'amène à renoncer à toutes ces choses, en mesurer la vanité. Voilà, Paul a connu son chemin de Damas et il est devenu un apôtre du Christ. D'ailleurs, c'est par sa main, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que environ le tiers du Nouveau Testament a été rédigé, deuxième partie de la Bible. Voilà, c'est une œuvre glorieuse, une œuvre divine, ça. Et Paul va ramener les Galates à son expérience, voilà, pour les encourager à demeurer bien fermes dans la foi vers laquelle l'Évangile nous conduit. Et bien sûr, nous aussi, lorsque nous lisons ce témoignage, ces quelques mots, ça nous parle. Le Seigneur a inspiré ces paroles pour que nous puissions en retirer un bénéfice. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces paroles de Paul qui écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Plusieurs choses. La première, finalement, quand on observe ces paroles, « J'ai été crucifié avec Christ », on s'aperçoit que ce verset nous montre, il nous renseigne quant à la nature de l'œuvre que le Christ a accomplie pour nous, quant au fait que Jésus-Christ est celui qui nous représente, voyez, il nous représente devant Dieu le Père. Eh oui, car quand Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ », bien sûr, nous comprenons qu'il n'est pas passé par la mort physique, il n'est pas mort au moment où le Christ livré sa vie en sacrifice pour nous sur la croix du calvaire. Non, il était bien vivant, mais dans un sens spirituel, Paul écrit « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est-à-dire que quand il est passé par la mort, il l'est passé dans un sens spirituel. En Jésus-Christ, qui est notre représentant, qui a représenté Paul, vous voyez, Paul a véritablement vécu, il est véritablement passé par la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein, quelqu'un dira-t-il. C'est important de comprendre ça, ce fait que Christ nous représente devant Dieu le Père. Vous savez, quand quelqu'un nous représente, hein, les actions de quelqu'un d'autre, les décisions prises par une tierce personne peuvent avoir pour notre vie des conséquences importantes. Prenez deux pays. Hein, deux pays, voilà, pour une raison quelconque, le chef d'État de tel pays va déclarer la guerre, voyez, à un autre pays. Cet homme, c'est le chef de l'État, c'est le représentant de la nation. Et il déclare la guerre à un autre pays. Voyez, ce sont deux hommes qui se déclarent la guerre, mais parce qu'ils sont des représentants de la nation, ça va avoir un impact là sur la totalité des habitants de ces pays, qu'ils le veuillent ou non. Voyez, parce que leur représentant a agi d'une telle manière, ils se retrouvent en guerre, et ça aura des conséquences. Ça aura des conséquences pour leur vie. Bien, l'Écriture nous dit que le Seigneur est notre représentant, cette fois non pas sur un sens politique, hein, dans un sens politique, mais dans un sens spirituel, devant Dieu le Père. Il y a deux hommes qui nous ont représentés devant Dieu. Hein, le premier, c'est Adam. C'est Adam, dont il nous est dit que parce qu'il nous a représentés, alors qu'il a désobéi à Dieu, alors qu'il a transgressé le commandement de Dieu, bien, toute l'humanité va tomber avec lui. C'est pour ça que c'est important, hein, de bien recevoir le témoignage que l'Écriture rend par rapport à Adam, de ne pas recevoir cette théorie de l'évolution qui contredit l'enseignement de l'Écriture. Parce que si vous enlevez Adam de l'enseignement des Écritures, alors tout l'Évangile s'effondre, vous voyez, puisque l'Évangile nous révèle Jésus-Christ comme le dernier Adam. Hein. Alors Adam, quand il désobéit à Dieu, qu'on le veuille ou non, c'est toute l'humanité qui tombe avec lui. Voyez. Et aujourd'hui, regardez un enfant, quand il naît, il est tout à fait innocent. Et pourtant, la mort est déjà là. Hein, parce que dès que l'âge de raison va se manifester, que la conscience de l'enfant va se mettre à fonctionner, inévitablement, vous l'avez remarqué, l'enfant va être attiré vers le mal. Pourquoi ? Parce que la vie de Dieu n'est pas là. Il est écrit que par un homme, le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Voilà. Or, de la même manière qu'Adam nous a représenté, l'Écriture rend témoignage à Jésus-Christ. Il est homme. Il est venu en tant qu'homme pour nous représenter. Mais il demeure fils de Dieu. Béni soit son nom. Il a été envoyé pour nous représenter, non pas cette fois pour nous entraîner dans la chute, mais pour nous relever. Vous voyez, ce qu'Adam a fait, ou plutôt ce qu'il a défait, Christ vient le refaire. Il vient le réparer pour ceux et celles qui acceptent de croire en lui. Et vous voyez, de la même manière que Adam a entraîné l'ensemble de l'humanité dans sa chute, bien pour ceux et celles qui croient dans le Seigneur, il y a cet après-midi un relèvement. Et Paul le savait, Paul l'a expérimenté, il l'a vécu, c'est pourquoi il dira, voilà, j'ai été crucifié avec Christ. Parce que le fait de nous représenter, ça touche cette question de la mort. Il y a toutes sortes de versets dans l'Écriture qui nous l'affirment. Par exemple, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Christ. Et encore, ce verset qui affirme que nous sommes, si nous plaçons notre foi dans le Christ, devenons avec lui une même plante, nous sommes comme greffés en lui par la conformité en sa mort. Et puis ce verset encore qui dit, voilà, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà le fait que Christ nous représente. Mais ce verset, il nous parle aussi du vrai et du premier besoin de l'homme, parce que au moment où nous parlons de cette mort, de ce caractère de représentant de Jésus-Christ, quelqu'un dira finalement, et en quoi ça me concerne ? En quoi ça me concerne ? Et en quoi c'est enviable d'être mort, de passer par une mort dont je ne comprends pas bien la nature ? De quoi s'agit-il quand j'entends parler de mort spirituelle ? pour l'homme insouciant, pour l'homme orgueilleux, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, celui qui vit dans une vie de plaisir, de manière égoïste, et qui fait des choses matérielles, finalement, son but ultime, c'est vrai qu'on ne voit pas nécessairement l'utilité de ce qui nous est dit ici. Mais quand on prend le temps de s'arrêter, prend le temps de considérer l'état des choses, notre condition devant Dieu, bien on s'aperçoit que ce sont des choses qu'il nous appartient de méditer profondément. Vous voyez, parce que si nous vivons sur la terre quelques dizaines d'années, même le plus robuste d'entre nous, il y a ce rendez-vous de la mort physique par laquelle nous devrons tous passer. Un homme de la Bible dit que c'est le rendez-vous de tous les vivants. Et la mort n'est pas la fin de tout. L'Écriture nous dit de manière très claire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que nous rendrons compte à Dieu, nous rendrons compte devant Dieu des actions que nous aurons accomplies, la manière dont nous aurons conduit notre vie. Et il faut se préparer pour ça. Il faut se préparer pour ça. Et même sans penser à cette échéance de la mort physique à laquelle il convient quand même de réfléchir, bien, si on fait le constat devant Dieu, si on réfléchit à la manière dont on a conduit sa vie, inévitablement, on va remarquer que bien, nous avons failli à bien des égards, puisque la Bible rend ce témoignage que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas l'œuvre là de quelqu'un qui vous accuse, hein, mais c'est l'œuvre de l'Esprit dans notre conscience qui nous montre qu'à bien des égards, même si notre vie a pu être morale, si nous nous sommes efforcés de pratiquer le bien, si nous avions une religion, eh bien nous avons manqué le but. Nous avons enfreint les commandements de Dieu. Notre conscience, là, nous rendra témoignage de toutes ces occasions où nous sommes passés à côté. Nous sommes passés à côté. Quand nous n'avons pas vécu une vie ouvertement de débauche, vous voyez, une vie où nous avons brisé peut-être la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez, tout ça, c'est important de le considérer. Non pas pour être accablé, non pas pour nous décourager, non pas pour être rempli de pensées morbides, c'est pas du tout ça, mais parce que c'est la réalité. Et l'Évangile nous montre que bien cette vie que nous avons vécue loin de Dieu, eh bien, il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle disparaisse, parce que sinon elle va nous coller à la peau, elle va nous suivre, nous allons être entraînés dans des chemins de traverse, vers des choses que nous n'aurions peut-être pas imaginées, et au bout du compte, elle va nous mener non seulement à nous égarer pendant cette vie, mais nous le disions, lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, bien nous subirons son juste jugement. Donc cette vie, elle doit disparaître. D'ailleurs, il y a des gens qui en prennent conscience et qui, dans des moments de lucidité, dans des moments de solitude, peut-être à l'occasion d'une épreuve, d'un coup dur, disent « Mais si je pouvais tout recommencer, si je pouvais tirer un trait sur mon passé, si je pouvais en finir, si je pouvais tourner la page, revenir sur ce qui s'est produit dans ma vie, sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai été, sur ce que j'ai dit. » Et là, nous comprenons cette parole de Paul qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. En envoyant Jésus mourir pour nous, Dieu nous propose de passer par la mort, de tirer un trait définitif sur ce passé vécu loin de Dieu, ce passé vécu dans l'insouciance, dans la folie parfois de notre cœur et de nos pensées, et d'en recevoir un plein pardon. » Il y a cet extraordinaire verset de l'Écriture qui affirme « Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. » Vous voyez, celui qui passe par la mort, permettez-moi encore une illustration, vous voyez ce prisonnier, il est condamné à une peine exemplaire, justement pour un méfait qu'il a commis. Et voilà que dans sa prison, la cellule de sa prison, il meurt. Vous voyez, la loi qui le condamnait n'a plus de pouvoir sur lui. Il échappe par la mort à la condamnation qui avait été prononcée à son encontre. Bien, c'est un petit peu ce que Dieu fait pour nous en Jésus-Christ. Il nous fait passer par la mort pour qu'il n'y ait plus pour nous de condamnation. Et puis c'est notre vie, cette vie loin de Dieu, cette vie vécue dans l'égarement qui disparaît, elle meurt. Paul l'affirme, j'ai été crucifié avec Christ. Et puis la bonne nouvelle, c'est que cette vie, cette mort avec Christ, elle est indissociable de la résurrection. Hein? s'arrête pas à la mort. Paul affirme, j'ai été crucifié avec Christ et si maintenant je vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans un sens spirituel, nous le disions, Paul est passé par la mort, mais il vit. Dieu l'a ramené à la vie. C'est l'expérience que Dieu nous propose de vivre par l'Évangile, c'est de passer par la mort et de passer par la résurrection. C'est une nouvelle vie. Il nous propose de revivre dans le Seigneur en nouveauté de vie. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses deviennent nouvelles. C'est ce que le Christ nous enseigne aussi lorsqu'il parle de naître de nouveau. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre encore quand il nous affirme « Je suis la résurrection et la vie ». Voilà, quelle bonne nouvelle pour l'âme qui prend conscience de son véritable besoin. Celui de recevoir un plein pardon et de tout recommencer. De tirer un trait définitif sur son passé. C'est ce qui était arrivé à Paul. Réfléchissons au parcours de cet homme. C'était un juif, nous l'avons dit, qu'on pourrait appeler intégriste. Malgré toutes ses qualités, malgré son aspiration religieuse, malgré une sincérité indiscutable, cet homme fera le constat, quand il réfléchira plus tard à ce qu'il était, il dira « J'étais un blasphémateur. Je ne voulais pas reconnaître la réalité de la personne du Christ. » Il y avait certainement dans sa conscience quelque chose qui l'avertissait, mais il avait passé outre. Son aveuglement religieux l'avait amené à n'en tenir aucun compte. Un persécuteur. Il pourchassait, il persécutait les chrétiens. Un homme violent, il y avait en lui, malgré son aspiration religieuse, malgré son aspiration à faire le bien, il y avait en lui des pulsions de violence qui le dominaient. Il prenait plaisir, voyez, à frapper, à intimider. Et tout ça, voyez, c'était la réalité. Il ne le voyait pas, mais c'était ce qu'il était. Puis quand il prend conscience de ce qu'il est, quand le Seigneur lui apparaît sur le chemin de Damas, voyez, tout ça, il le confesse, il le reconnaît, ça lui apparaît. Et il va passer, mystère de la grâce de Dieu, hein, qui lui apparaît là, sur ce chemin, il va passer par la mort. Et à partir de ce jour-là, sa vie ne sera plus jamais la même. Lisons les pages du Nouveau Testament, vous découvrez en Paul un homme plein d'amour. Il n'y a plus de violence en lui. Il y aurait eu souvent parfois des occasions pour lui de la manifester, cette violence, il ne l'a plus fait. Il était transformé, il était né de nouveau. Il était une nouvelle créature. Nous découvrons en lui un homme infatigable qui va répandre l'évangile de Christ. Alors, nous n'aurons pas forcément un parcours aussi spectaculaire que celui de l'apôtre Paul. Ah, mais je vous assure que si vous venez à Christ, il y aura ce changement intérieur, cette mort et cette résurrection. Cette transformation, cette nouvelle naissance. Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai qu'il y a encore aujourd'hui des vauriens, des drogués, des bandits même, hein, qui se convertissent au Seigneur et ils sont tous changés. Béni soit Dieu. Hein, on connaît, il y en a qui sont venus, qui sont passés dans cette église, même des serviteurs de Dieu, qui autrefois vivaient une vie dans la délinquance, dans la violence, ils sont complètement transformés. Hein, certains prêchent l'évangile, ça c'est l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas toujours aussi spectaculaire. Parfois ça ne se voit pas comme ça à l'œil, mais il y a une œuvre réelle. Je pense à ce garçon. Avant de se convertir au Seigneur, il fréquentait les réunions de l'Église depuis plusieurs mois. Puis il y avait des problèmes dans sa vie, ils étaient évidents, d'autres qui étaient beaucoup plus cachés. Il y en avait un notamment, il n'arrivait pas à aimer son frère. Il se retrouvait parfois en face de son frère et il disait « Mais c'est ton frère, il faut que tu l'aimes !» Il n'y arrivait pas. Vous voyez, ça le rendait malheureux, ça le bouleversait. Et ils entraient dans des colères violentes quand ils étaient l'un face à l'autre. Et puis ils se sont convertis tous les deux. Et c'est lui qui raconte que sans s'en rendre compte, il s'est aperçu qu'avec son frère, ça allait. Et un jour, il s'est rendu compte que dans son cœur, il y avait de l'amour pour son frère. Vous voyez, ça c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et aujourd'hui, hein, ces deux frères, ils apprécient se voir. Hein, ils ont une excellente relation. Ils sont chrétiens tous les deux, ils marchent avec le Seigneur. Je pense aussi à ce garçon qui, lorsqu'il est venu, il a découvert l'Église. Et pendant des mois, il a fréquenté les réunions. Le chrétien l'accueillait gentiment. Et dans son cœur, c'est lui qui le dit. Il y avait un mépris terrible de tous ces chrétiens. Et il ne le montrait pas. Il n'était pas provocateur, parfois un peu insolent. Mais il éprouvait un grand mépris de tous ces chrétiens. Pourtant, parfois, état contradictoire du cœur de l'homme. Hein. Il y avait aussi cette voix qui lui disait, la voix de sa conscience, ces gens, ils croient ce qu'ils professent. Ces gens, ils sont sincères dans leur foi. Puis un jour, au cours d'une réunion comme celle-ci, il a entendu la parole de Dieu, qui l'a touché, quelque chose qui s'est passé, c'était l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui raconte, il s'est dit, j'ai compris que Dieu avait fait une œuvre en moi quand je me suis rendu compte que je m'étais mis à aimer tous ces chrétiens. Je m'étais mis à aimer tous ces gens. Il y avait quelque chose dans mon cœur qui ne venait pas de moi, mais chaque fois que je venais, j'avais pour eux une immense affection. Dieu l'avait béni, Dieu l'avait changé. J'ai été crucifié avec Christ, écrit Paul, et si maintenant je vis, eh bien c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a bénis. Il est venu, il nous a aimés, il s'est livré lui-même pour nous. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous ressusciter en lui et avec lui. Il est ressuscité pour notre justification, que Dieu nous considère juste, qu'il nous agrée, qu'il nous accepte. Puis une dernière pensée qui ressort de ce verset. Regardez ce que Paul va dire à la fin. Il va dire, mais si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Finalement, ce texte met en évidence l'importance de la foi en Christ à chaque étape de la vie chrétienne. Si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Le moyen de vivre, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous passons en revue, ce changement intérieur, cette transformation, d'expérimenter cette mort spirituelle, hein, et cette résurrection, cette nouveauté de vie qui se prolonge jusqu'en vie éternelle, puisqu'on l'a dit, il n'y a plus de condamnation, hein, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien, c'est la foi. Paul, ce grand homme de Dieu, cet apôtre du Christ, a eu un parcours spectaculaire. C'est vrai que le Christ lui apparaît, hein, audiblement, puis visiblement, sur le chemin de Damas. Mais ce qui lui permet de vivre, ce qu'il décrit, ce n'est pas ce qu'il voit, ce n'est pas ce qu'il entend, c'est la foi. Il croit, ce jour-là, que le témoignage rendu par les Écritures concernant le Christ est vrai. Vous voyez, la foi, dit la Bible, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ, du témoignage qui est rendu à Jésus-Christ. Le témoignage que l'Écriture rend à Jésus-Christ a le but de nous permettre de croire, de recevoir la foi. Et lorsque nous sommes placés devant ce témoignage, il faut le croire, il faut le recevoir. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Et puis, ça c'était le premier jour, mais c'est vrai ensuite, chaque jour c'est important de vivre dans la foi au Fils de Dieu. Je pense au témoignage de ce missionnaire, c'est pour ceux qui le connaissent, c'est Hudson Taylor qui était missionnaire en Chine, et qui, tout missionnaire qu'il était, faisait l'expérience de jour en jour de ses défauts, de ce qui subsistait en lui, ce qui avait encore besoin d'être changé, parce que le fait de rencontrer le Seigneur, de vivre cette expérience de résurrection, c'est extraordinaire, mais ça ne nous rend pas parfaits. Il y a encore des choses là, il y a encore du travail. Tant que nous serons sur la terre, tant que le chrétien vit dans la chair, dans son corps, eh bien il y a encore ce travail à faire. Et Hudson Taylor, pour revenir à ce missionnaire, parfois voyait là dans sa vie des choses qui l'attristaient, qu'il savait déplaire à Dieu. Et un jour, il était découragé, il disait, mais voilà où j'en suis encore, après tant d'années passées à vivre avec le Christ et à le servir même. Et il dit, il y a cette pensée-là qui m'a frappé. Moi, j'avais failli, mais Christ, lui, il n'avait pas failli. Et il dit, j'ai relevé la tête. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est lui qui me représente. Je pense aussi au témoignage de ce garçon, on va terminer avec ça, et qui s'est converti d'une curieuse manière. C'était un enfant de chrétien. Il venait depuis qu'il était tout jeune aux réunions de l'Église. Et un jour, ses parents lui disent, on va à une réunion de jeûne et de prière. Et là, il était encore un garçon, cet adolescent avait 16 ans. Il ne sait pas ce qu'il lui a pris. Il a dit à ses parents, je viens avec vous. Et c'était tout à fait inhabituel, vous voyez. C'était la réunion de jeûne et de prière était la réunion dont ses parents lui faisaient grâce. Il les a accompagnés et il était à genoux, l'église était à genoux, il était à côté d'un de ses amis qui lui aussi était présent. Et alors que les chrétiens priaient d'un seul coup, il dit, voilà, le Saint-Esprit m'a visité, je suis venu à pleurer sur mes péchés. J'avais mon copain qui me donnait des coups de coude, je lui disais, tais-toi. Et il raconte quand ils se sont relevés, quand l'église s'est relevée, c'est comme si un poids physique avait été enlevé de ses épaules. Il savait que ses péchés lui avaient été pardonnés. Il avait conscience, pour la première fois de sa vie, que ce Seigneur dont il entendait parler, eh bien, s'était manifesté à lui, était venu faire sa demeure en lui. Il l'avait lavé de ses péchés. Il se sentait plus léger, vous voyez. Mais il y avait un problème dans sa vie, depuis quelque temps. 16 ans, ce n'est pas un âge facile, on l'a entendu dans le témoignage. Et ce problème, c'est qu'il se disputait avec sa maman. Souvent. Vous allez dire, c'est rien, ça. Ah, pour lui, c'est quelque chose. Sa conscience lui montrait que là, il y avait un problème. Et le soir même de ce jour, où dans cette réunion de jeûne, Dieu s'était manifesté à lui. Il avait ouvert son cœur à l'action de Dieu. Il avait expérimenté le pardon de ses péchés. Il était devenu chrétien. Il était ressuscité avec le Christ. Le soir même, une dispute a éclaté entre lui et sa maman, et c'était plus fort que tout ce qui avait jamais eu lieu avant. Et il montait dans sa chambre malheureux. Malheureux parce qu'un chrétien, vous voyez, il peut faillir, mais il ne tolère pas le péché, il ne l'approuve pas. Sa conscience rend témoignage que le péché est désagréable à Dieu, et le cœur du chrétien, vous voyez, le rejette. Et quand c'est comme ça, vous savez, le diable en rajoute. Et là, il se disait, mais tu vois, qui t'est arrivé aujourd'hui, c'est pas vrai. Tu t'es jamais converti. Tu t'es pas vraiment devenu chrétien, sinon tu n'aurais pas agi comme ça, tu n'aurais pas répondu comme ça à ta maman. Oui, un peu dans l'état dans lequel il se trouvait. Et il a eu du mal à trouver le sommeil. Et puis, Dieu est bon. Et Dieu est fidèle. En se levant le matin, il a réfléchi. Quand on ouvre son cœur au Seigneur, il y a l'action du Saint-Esprit en nous, dans notre conscience. Il a eu cette conscience que malgré cette dispute, malgré sa mauvaise réaction, ça n'enlevait en rien. Vous voyez la vérité de ce qu'il avait vécu, la réalité de son expérience avec le Seigneur. Il a demandé pardon de tout son cœur, puis il a relevé la tête et il s'est appliqué à vivre la vie chrétienne. Et le Seigneur lui a fait grâce. Il n'y a plus de dispute. Et il s'est épanoui dans la foi. C'est ça. Je vis, non pas par la foi en moi, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Parce que lui n'a pas failli. Lui demeure le parfait, le saint et le juste, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le Seigneur vous a aimé, il vous aime, il s'est livré pour vous. Cet après-midi, au travers ces quelques moments de réunion, entendez-le, c'est lui qui vous tend la main, il veut vous bénir. C'est possible pour vous de vivre ce que nous avons partagé, ce que nous avons lu, passer par cette mort, cette résurrection, vivre en nouveauté de vie, le souhaitez-vous, le voulez-vous. Je propose de prier quelques instants et de nous tourner vers le Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta parole.